VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition spéciale consacrée au discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir par le président américain devant les deux chambres réunies du Congrès. Nous sommes le 5 février 2020, 18h30 en temps universel. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition spéciale. Donald Trump était face à la nation hier dans une adresse où il a vanté ses réalisations. Le président américain qui devrait être acquitté aujourd'hui par le Sénat dans son procès. Comment l'actualité américaine est perçue en Afrique? Nous aurons quelques réactions dans ce journal. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord... Mais tout d'abord, cette édition de ce journal, donc. Le président Donald Trump a prononcé hier soir son troisième discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Monsieur Trump s'est concentré sur ses principales réalisations comme s'il était déjà en campagne. Le point avec Lionel Gaïma qui nous apprend que le président a commencé son discours par un rappel de ses promesses de campagne en 2016.
Madam Speaker, the President of the United States.
Le président a commencé son discours avec un rappel de ses promesses de campagne de 2016.
Il y a trois ans, nous avions promis le retour de la grandeur de l'Amérique. Ce soir, je suis devant vous pour partager d'incroyables résultats.
Dans la Chambre de représentants où il a été mis en accusation par les démocrates, M. Trump n'a fait aucune mention de son procès qui se conclut aujourd'hui au Sénat. Il a refusé la poignée de main de la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi. Le président a vanté ses efforts pour bâtir une économie solide.
Si nous n'avions pas inversé les politiques économiques ratées de l'administration précédente, le monde ne serait pas maintenant témoin aujourd'hui du grand succès économique de l'Amérique.
À l'approche des élections de 2020, M. Trump a un taux d'approbation de 49%. Son discours s'est concentré sur la politique intérieure, les infrastructures, les soins de santé et la réponse des États-Unis à l'épidémie de coronavirus.
Nous nous coordonnons avec le gouvernement chinois et travaillons étroitement sur l'épidémie de coronavirus. Notre administration prendra toutes les mesures pour protéger nos citoyens de cette menace.
Il a abordé aussi plusieurs priorités de son administration en matière de politique étrangère, y compris un invité spécial, Juan Guaido, qu'il a présenté comme le président de Venezuela.
Tous les Américains sont avec le peuple vénézuélien dans sa juste lutte pour la liberté. Le socialisme détruit les nations.
Le chef de l'exécutif américain a abordé aussi le récent assassinat du général irakien Qassem Soleimani et a énoncé encore une fois de plus les conditions pour une solution diplomatique au dossier iranien.
Le régime iranien doit abandonner sa quête d'armes nucléaires, cesser de répandre la terreur, la mort et la destruction et commencer à travailler pour le bien de son propre peuple.
Il a déclaré que son administration avait trouvé une nouvelle solution pour la paix au Proche-Orient.
Reconnaissant que toutes les tentatives passées ont échoué, nous devons être déterminés et créatifs afin de stabiliser la région et de donner à des millions de jeunes la chance de réaliser un avenir meilleur.
Donald Trump a suggéré une fois de plus le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, un État qui aura un rôle important dans le scrutin présidentiel cette année, a donné la réponse démocrate.
L'intimidation sur Twitter ne répare pas les ponts, mais elle les brûle.
Alors que M. Trump terminait son discours, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a déchiré le texte du discours sous l'œil des caméras, appelant ainsi que le pays est encore plus divisé que jamais.
Pour une réaction à ces discours du président américain, Eki Abadou a joint le professeur Jean-François Seznec de l'université John Hopkins.
Écoutez, c'était un speech qui était un speech de campagne électorale. Il a fait un très bon travail pour ça, surtout pour les gens qui sont très républicains. Ça, je pense qu'il a dit exactement ce qu'eux voulaient entendre, que tout va bien, que l'économie est formidable, etc. Et dans un sens, c'était un très bon speech, oui.
Discours de campagne, vous avez dit, est-ce que dans ce discours, il n'y avait pas de place par rapport à cet impeachment? Est-ce que c'est pour vous légitime? On s'y attendait ou pas nécessairement?
Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il fasse au moins une référence. Comme il était sûr de gagner aujourd'hui, tout à l'heure, dans deux heures au Sénat, je pense que ses conseillers ont dû lui dire qu'il fallait absolument qu'il n'en parle pas, de façon à prendre le chemin élevé, si vous voulez, par rapport aux démocrates. Et ça, il l'a fait vraiment très bien, en fait. Et le fait qu'il n'ait pas vraiment insisté sur le fait qu'il allait gagner, c'est assez astucieux, si vous voulez.
Pour répondre au président Donald Trump, les démocrates ont porté leur choix sur la gouverneure Gretchen Whitmer du Michigan. Un extrait de notre édition spéciale de ce matin avec Idriss Assedoudia et Timothée Donagmaï.
Strong for whom?
On dit l'économie est forte, mais forte pour qui? Pour Wall Street qui bénéficie des coupes sombres dans l'impôt.
Elle a aussi parlé d'un autre sujet, bon, dont on n'attendait pas du tout le président dans son discours. On s'attendait pas à ce qu'il parle de ce qu'on avait appelé tout à l'heure l'éléphant dans la maison, c'est-à-dire l'impeachment qui est en cours.
Donc sa mise en accusation à la Chambre et son procès.
Aujourd'hui même que le Sénat doit dire si le président va être destitué ou non. On sait bien qu'il ne va pas être destitué puisque les républicains, les membres de son parti ont la majorité au Sénat. Donc le vote est prévu aujourd'hui. Mais quand même, la gouverneure a tenu à parler de l'impeachment.
Et le processus, peu importe notre patrie, nous devons comprendre que la vérité est importante. Les faits sont importants. Et personne ne doit être au-dessus de la loi. Ce n'est pas ce que disent les sénateurs, c'est ce qu'ils font qui est important. Souvenez-vous, écoutez ce que les gens disent, certes, mais observez ce qu'ils font. Le moment pour agir est venu. Des générations d'Américains comptent sur nous et ne les laissons pas tomber.
À propos des démocrates, signalons que Pete Buttigieg s'est offert une courte avance pendant les caucus de l'Iowa, dont les premiers résultats encore partiels ont été diffusés hier par les instances locales du Parti démocrate après une très longue et chaotique attente. Le maire de South Bend, dans l'Indiana, devance de justesse le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Joe Biden, qui fut le vice-président de Barack Obama, arrive en quatrième position.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vous suivez une édition spéciale sur la politique américaine sur VOA Afrique. Au lendemain du discours sur l'état de l'Union, c'est aujourd'hui l'épilogue dans le procès en destitution du président américain Donald Trump cet après-midi au Sénat dominé par les républicains. La Constitution exige le vote des deux tiers des sénateurs pour destituer un président. L'acquittement du président Trump est presque certain. Eric Manirakiza.
Pour évincer un président coupable de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs, la Constitution des États-Unis impose une majorité de 2/3, 67 sénateurs sur 100, pour le déclarer coupable. Le Parti républicain détient une majorité de 53 sur 47 et aucun républicain n'a annoncé publiquement qu'il voterait contre le président. Dans son discours sur l'état de l'Union mardi soir, le président n'a fait aucune mention de son procès au Sénat. Le Parti démocrate, qui garde le contrôle de la Chambre des représentants, réclame la destitution du 45e président des États-Unis pour avoir essayé de forcer l'Ukraine à salir son possible adversaire à la présidentielle, Joe Biden, notamment en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays en guerre. Le sénateur Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat, a accusé l'administration, ses hauts responsables et les républicains du Sénat de cacher la vérité, estimant que les faits reprochés au président sont extrêmement graves. Le chef de la majorité des républicains, le sénateur Mitch McConnell, qui a organisé un procès abrégé excluant de nouveaux témoignages ou éléments de preuve, a réfuté ces accusations contre Trump. Le procès divise les Américains. Et son impact sur les élections est donc difficile à prédire, mais le président Donald Trump se dit convaincu que les électeurs pénaliseront les démocrates.
Pour une analyse sur cette procédure et la suite, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington le professeur Emilio Viano de l'American University.
Les républicains se sont unis avec le président
pour empêcher les démocrates ou l'accusation, si vous voulez, de présenter des témoins additionnels. Le vendredi passé, à la fin de janvier, ils ont voté contre l'audition de nouveaux témoins et la présentation de documents supplémentaires qui auraient pu confirmer l'accusation de la part de la Chambre des députés.
Les démocrates ont-ils bien défendu leur dossier? Il fallait certes convaincre quelques républicains, quelques sénateurs républicains d'être à bord, mais il y avait aussi l'opinion publique qu'ils avaient à l'esprit. Est-ce qu'ils ont fait un bon boulot, si on peut le dire ainsi?
Ils ont fait un bon boulot, mais c'est clair que la Maison-Blanche a empêché la présentation du cas avec des témoins et encore plus avec des documents.
Justement, je voulais vous demander comment cette procédure d'impeachment va impacter les élections, surtout dans un contexte où le pays est très divisé sur le plan politique.
De la part de Trump, ça sera de continuer à se présenter comme une victime des démocrates qui ont déjà commencé à penser en ça lors de sa élection comme président.
D'accord. Et pour les démocrates?
Les démocrates peuvent dire maintenant le président et les républicains sont corrompus parce que il voulait, le président, utiliser l'aide d'un gouvernement étranger pour obtenir des informations négatives contre un oppositeur démocrate.
C'était le professeur des sciences politiques Emilio Viano. Enfin, le discours sur l'état de l'Union du président américain a été suivi sur le continent, même si M. Trump n'a pas dit un seul mot sur l'Afrique. Yacouba Ouédraogo a recueilli une réaction au Sénégal. C'est celle d'Alassane Samba Diop, directeur de e-radio à Dakar.
Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, a fait un discours triomphaliste, pour nous un discours de campagne, en disant qu'il a réussi là où tous les autres ont échoué et qu'il est parvenu à créer de l'emploi pour beaucoup d'Américains. L'économie américaine va de plus en plus mieux, que les accords commerciaux qu'il a pu faire, mettre en place avec la Chine, sont des accords qu'aucun président américain n'a pu faire. Alors nous pensons que, voilà, c'est Monsieur Trump a montré aujourd'hui dans la face du monde, que sa présidence est une présidence réussie. Et ça, c'est ce qu'il a fait.
Que pensez-vous de Donald Trump lui-même et de sa politique en général?
Au Sénégal et en Afrique, les gens retiennent de Trump quelqu'un qui n'est pas très connecté dans les affaires africaines et quelqu'un qui a traité les pays africains des pays de merde, si je me trompe, par rapport à ce qu'il avait dit. Et les gens estiment qu'aujourd'hui, que Trump fait partie de ceux qui luttent contre l'immigration clandestine. Beaucoup d'Africains prient pour que Trump ne soit pas réélu. C'est le préfondre dont pensent beaucoup d'Africains. Et ensuite, il y a une image qui est désastreuse pour la démocratie mondiale, pour la démocratie en Afrique, parce que beaucoup d'Africains quand même considèrent, quoi qu'il en soit, que les États-Unis est un pays démocratique. Cette main tendue à M. Trump de Nancy Pelosi qu'il a refusé de prendre et ce discours déchiré de Trump donne une très mauvaise image des États-Unis en Afrique par rapport à la démocratie. Vous savez très bien que beaucoup de pays africains considèrent les États-Unis comme un pays modèle en démocratie. Et si les petits déserteurs africains, entre guillemets, voient ces images-là, ils sont encouragés aujourd'hui dans des clivages qui vont continuer. Les gens pensent que c'est une très, très mauvaise image que les Américains ont montrée au monde par rapport à ce geste, à cette image qui, à mon avis, est une image vraiment désastreuse pour la démocratie américaine.
Alassane Samba Diop, directeur de e-radio et télé à Dakar au Sénégal.
Abdourahmane Dia avec vous. Ce jeudi dans Washington Forum, c'est une semaine politique très chargée ici aux États-Unis avec le début chaotique des primaires chez les démocrates, le discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump et le verdict au Sénat dans son procès en destitution. Alors que chez les démocrates, les électeurs doivent encore départager plus de 10 candidats, le président Trump souhaite prendre une longueur d'avance sur ses potentiels adversaires qui pourraient sortir affaiblis du caucus de l'Iowa. Nous allons évoquer les implications de tout cela sur la campagne avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le président Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel malgré l'intense contestation contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre de sa part pour briguer un troisième mandat fin 2020. Le référendum sera donc couplé aux législatives prévues le 16 février et dont le report au 1er mars avait déjà été annoncé lundi. L'annonce de la date du référendum attendue depuis des semaines risque d'accroître les tensions déjà vives en Guinée. Le pays est le théâtre depuis mi-octobre de protestations contre le projet prêté de longue date au président élu en 2010 et réélu en 2015 de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'élection présidentielle au Burkina Faso aura lieu le 22 novembre et sera couplée aux législatives. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. La convocation du corps électoral est donc prévue pour le 22 novembre 2020. Pour ces élections couplées, cette date est importante parce que la Constitution précise que les élections présidentielles devront avoir lieu au moins 21 jours avant l'expiration du mandat présidentiel. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est dit mardi confiant de voir le Nigeria remplir les conditions pour être retiré de la liste des pays visés par un décret anti-immigration des États-Unis, à laquelle l'État le plus peuplé d'Afrique vient d'être ajouté par Donald Trump. En recevant son homologue nigérien Geoffrey Onyema à Washington, Mike Pompeo a expliqué que les restrictions des visas d'immigration imposées au Nigeria et à 5 autres nouveaux pays avaient pour objectif de les pousser à vérifier les données des voyageurs. Le pape François a appelé ce mercredi le monde riche à mettre fin à la pauvreté, estimant que la planète est en mesure de vaincre les inégalités. C'était au cours d'une conférence au Vatican sur l'économie solidaire et l'inclusion. Nous ne sommes pas condamnés à l'inégalité ni à la paralysie face à l'injustice. Le monde riche est une économie prospère et une économie prospère peuvent et doivent mettre fin à la pauvreté, a déclaré le pape devant les participants lors d'une intervention qui n'était pas programmée. Parmi les dizaines de participants figuraient, entre autres, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, ou son homologue argentin, Martin Guzman. 8 organisations d'aide humanitaire ont appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat dans le nord-ouest de la Syrie, dénonçant une catastrophe humanitaire alors que le régime et son allié russe poursuivent une offensive contre djihadistes et rebelles. Le pouvoir de Bachar al-Assad a lancé en décembre son opération dans la province d'Idleb et ses environs. Appuyé par des frappes aériennes meurtrières, les forces gouvernementales ont repris des dizaines de localités dans le secteur. Quelques 520 000 personnes ont été déplacées depuis le 1er décembre à cause des hostilités, selon l'ONU. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé mercredi un ultimatum au régime de Bachar al-Assad pour qu'il recule dans le nord-ouest de la Syrie après des affrontements inédits qui suscitent des frictions entre Ankara et Moscou par un de Damas. L'escalade entre la Turquie et le régime syrien après des échanges de tirs qui ont fait plus de 20 morts lundi risque de déstabiliser davantage la province d'Idleb, ultime grand bastion dominé par djihadistes et rebelles, où la situation humanitaire est critique. À New York, des diplomates ont indiqué que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendrait jeudi après-midi une réunion d'urgence sur les derniers événements dans le nord-ouest de la Syrie. Et puis, un Palestinien a été tué mercredi par un coup de feu des forces israéliennes qui ont dit avoir riposté à un tir de cocktail Molotov dans une première manifestation meurtrière en territoire palestinien depuis l'annonce du plan américain pour le Proche-Orient. Depuis l'annonce de ce plan le 28 janvier, des manifestations ont lieu chaque jour dans les territoires palestiniens et notamment dans le quartier de Bab al-Sawad de Hébron. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, édition spéciale, l'actualité économique en Afrique et dans le monde. On en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'équipage de cabine de TAG de la compagnie publique aérienne angolaise a annulé une grève qui devrait commencer aujourd'hui. À la suite de l'appel à la grève, l'entreprise a rencontré en urgence les employés à la recherche d'un consensus. Ces derniers ont conclu un accord avec la direction de TAG pour que leurs réclamations soient réglées dans 6 mois. Qatar Airways négocie l'acquisition de 49% de Rwandair, la compagnie aérienne publique du Rwanda, pour répondre à la forte demande du continent qui est très mal reliée au reste du monde, selon le PDG de Qatar Airways, Akbar Al-Bakr. Il justifie l'attrait de Kigali par sa situation géographique, la stabilité du pays et l'environnement commercial très favorable. Par ailleurs, le Fonds souverain du Qatar finance l'expansion de l'aéroport de Kigali pour porter sa capacité à 10 millions de passagers par an. Rwandair dessert 27 destinations en Afrique et dans le reste du monde. Terminons par le gouvernement nigérian qui s'engage à mettre en œuvre une stratégie économique numérique pour aider les États à créer des emplois avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres agences, a déclaré le ministre de l'économie numérique Issa Pontami. Les gouverneurs se disent prêts à collaborer avec le ministère pour atteindre au moins un objectif national de pénétration du haut débit à 70% avant la fin de cette année. Par ailleurs, les États sont appelés à engager les jeunes dans l'agriculture et à combler les déficits en logement.
Et Yacouba Ouidraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Didier Drogba est pour une CAN tous les 4 ans.
Organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans, comme le souhaite la FIFA, au lieu d'un rythme biannuel, peut être une bonne chose selon l'ancien attaquant de la Côte d'Ivoire.
Passer de 2 à 4 ans, ça peut être une bonne chose parce que ça donnerait aussi une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté. Maintenant, c'est un compromis qu'il faut trouver. Je pense qu'on va être obligé d'arriver à ça parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs. Et vu qu'il y a beaucoup de joueurs africains maintenant qui évoluent en Europe, ça complique un peu la chose. Déjà à l'époque, quand on jouait la CAN, qui était au mois de janvier, partir en sélection, c'était mettre en danger sa place de titulaire ou sans parler des conditions climatiques.
Didier Drogba, lors de son passage à Paris dans le cadre d'une formation avec l'UEFA et le Centre de droit et d'économie du sport.
Wilfried Ndidi a rechuté.
Oui, de retour de sa première blessure, le Nigérian de Leicester a enchaîné 2 matchs. Le premier face à West Ham en Premier League et le deuxième contre Aston Villa en demi-finale de la Ligue Cup. Mais la troisième tentative n'a pas été la bonne. Alors que le milieu de terrain était pressenti pour jouer face à Chelsea samedi dernier, il a ressenti une douleur au niveau du genou. Sur le site officiel du club, l'entraîneur Brendan Rodgers a fait savoir que la trêve hivernale anglaise va permettre à son joueur de récupérer afin de revenir sans pépin physique. Pour rappel, Wilfried Ndidi a disputé 21 rencontres cette saison en Premier League.
Un entraîneur de NBA nommé à la tête de l'équipe nigériane de basket, Yacouba.
Oui, Mike Brown, entraîneur adjoint de Steph Curry à Golden State, est désormais à la tête des D-Tigers. À quelques mois des Jeux Olympiques 2020, l'annonce a été faite par la fédération sur son compte Twitter. Brown a été entraîneur des Cavaliers de Cleveland, franchise avec laquelle il a atteint la finale NBA en 2007. Il a connu une courte période avec les Lakers de Los Angeles, mais a tout de même remporté le titre d'entraîneur de l'année en 2009. Son parcours en tant qu'adjoint de Steph Curry a été fructueux avec, à la clé, 2 titres remportés en 2017 et en 2018.
Merci à toi. Édition spéciale de VO Afrique, page magazine. À présent, au Sénégal, les parents des étudiants établis à Rouen sont montés au créneau pour fustiger la déclaration du président Macky Sall qui affirme que l'État du Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier ses ressortissants bloqués en Chine. Face à la presse, les parents de ces derniers affirment qu'ils ne comptent pas laisser leurs enfants périr sans rien faire. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Ils sont 13 étudiants sénégalais toujours confinés à Wuhan, épicentre du coronavirus. Leurs parents affirment que l'État du Sénégal a failli en abandonnant ses citoyens dans de pareilles circonstances. Yoruba était leur porte-parole du jour.
Désemparé, le cœur meurtri et amer, et le collectif des parents, suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias, message certainement tronqué, mais qui a fini de jeter le désarroi, la confusion, et les mois dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée.
Pour sauver ces Sénégalais, les autorités sont appelées à reconsidérer leur position. D'après les parents des étudiants bloqués à Wuhan, plus le temps passe, plus les risques deviennent élevés.
Les jeunes qui sont là-bas sont assez inquiets quand même de la situation. Déjà que, comme vous voyez les images des trucs, dans la ville est déserte, personne ne peut sortir. Ils ont des problèmes d'abord pour s'alimenter et les risques sont énormes. Ils se frottent à des milliers, des millions de gens. Donc, alors que vraiment leur nombre est très minime. Donc la solution serait vraiment de les expulser, de revenir chez eux.
Même si le Sénégal ne dispose pas de moyens logistiques pour organiser le rapatriement de ses ressortissants, il devrait pouvoir s'appuyer sur la coopération internationale. C'est la conviction d'Elhadj Amsatou Coulibaly, frère d'un des 13 étudiants de Wuhan.
Qui utilise ses relations, au moins avec la France, qui a rapatrié plus de 300 personnes, qui a envoyé deux avions, dont l'un n'avait presque pas de Français, mais des Européens. Donc, je pense que rapatrier 13 personnes, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le dit. Si la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie arrivent à rapatrier leurs propres citoyens, je pense que le Sénégal peut le faire. Parce qu'il y a mon frère, son partenaire de chambre, il était mauritanien et il est parti avant-hier. Donc, il n'est plus question de que Wuhan est mis en quarantaine.
Hormis Wuhan, épicentre du coronavirus, d'autres étudiants et citoyens sénégalais sont bloqués dans des villes chinoises sous quarantaine. Une situation complexe pour les autorités qui font face à la colère des parents et à l'incompréhension de certains Sénégalais. Pour eux, l'impuissance affichée par le président Macky Sall est une faillite d'État. À Dakar, Seydina Ba Gueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Comment se porte l'ananas au Togo? Voyons cela avec Kayla Hussein, notre correspondant à Lomé.
En 2018, le Togo a produit 30 000 tonnes d'ananas, dont 65% biologiques. Les producteurs d'ananas biologiques qui n'ont pas de marché à l'extérieur se plaignent, car sur les marchés locaux, les ananas bio s'achètent au même prix que les conventionnels. Afin de savoir quel levier manier pour rendre la filière compétitive, une étude a été commanditée sur l'analyse de la chaîne de valeur ananas au Togo. Gustavo Saldariaga, chef de mission pour l'étude de la filière ananas au Togo, revient sur les quatre axes principaux de cette étude.
Le premier, c'est l'analyse fonctionnelle qui permet de savoir comment se comporte la filière. Deuxième, c'est l'analyse économique qui est orientée à montrer si la filière contribue à la croissance économique du pays. Troisième, c'est l'analyse sociale et finalement une analyse environnementale orientée à montrer si la filière est durable du point de vue environnemental.
Environ 60% des ananas produits au Togo sont exportés essentiellement vers l'Europe en frais ou sous forme de produits transformés. Pour s'assurer que les produits à destination de l'Europe répondent aux normes, la délégation de l'Union européenne au Togo appuie la filière. Bruno Hanzès, chargé d'affaires à la délégation de l'UE au Togo.
Donc c'est un cadre d'ensemble qui vise surtout d'améliorer la régularité et la qualité aussi de la production. Il y a un objectif global, c'est de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.
L'ananas togolais a un véritable potentiel pour être compétitif, estime Gustavo Saldariaga.
La filière ananas au Togo, c'est toute une petite filière. La caractéristique la plus importante, c'est que la plupart de la production, 65% de la production au Togo de l'ananas, est bio. Le futur de la filière ananas au Togo, c'est la production bio et le marché de niche.
Pour les producteurs, le plus important est l'investissement.
Nous attendons des investissements. Des investisseurs qui peuvent nous venir en aide dans les difficultés financières que nous rencontrons dans la production. Plus nous avons des investissements, plus nous allons employer des jeunes et augmenter aussi notre chiffre d'affaires.
Selon l'étude, la chaîne de valeur ananas au Togo contribue à moins d'1% au PIB agricole du pays. Mais il a indiqué que le développement récent des activités de conditionnement pour l'exportation et de transformation en produits dérivés a permis de doubler la valeur ajoutée de cette chaîne de valeur. Kayla Hussein, Lomé, VOA Afrique.
Justin, Georges Léonard Sagnot et John Lindon vous ont servi ce journal. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.